RMC.
Bound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket time sur RMC, c'est parti pour votre rendez-vous basket du mardi que vous téléchargez sur rmc.fr avec un thème fantastique, un thème qu'on va refaire dans les années prochaines, dans les années à venir, au moins trois fois par saison, je vous l'annonce. Ce thème, c'est Wembanyama. Wembanyama
moi qu'à Mbappé.
Et les Spurs. Oui, bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est moins que le thème Mbappé qu'on fait trois fois par semaine.
Par semaine, oui. Mais on s'est un peu calmé ces derniers temps parce que c'est la fin. Là, on arrive à la fin, donc on
ralentit. Ah, donc s'il part, on fera.
On ralentit. Non, mais ce sera moins dans l'actu. Nous sommes également avec Frédéric Weiss. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et nous sommes également avec Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour, j'ai des problèmes de casque. Il faut que je résous ça.
Alors, occupe-toi de ton casque.
Résolve.
Occupe-toi de ton français aussi.
Faut que tu résolves ton bécherel.
Excusez-moi.
C'est un spécial Wembanyama et les Spurs parce que Wemby est en train de faire des choses assez incroyables.
Il était monsieur bricolage. Bon.
Il était à la une de l'actualité il y a quelques jours pour son 5x5. Nous allons y revenir. Les Spurs font-ils perdre du temps à Wembanyama ? Voici un débat assez sulfureux pour commencer. Parce que je pense qu'il y a un vrai débat à faire. On n'a pas la même culture, c'est vrai, que les États-Unis, que le développement des projets, etc., etc. Mais c'est un vrai débat à faire. Et puis, sera-t-il notre Victor national, le premier joueur en quintuple double ? Ça vous laisse quoi ?
Quoi ?
Pantois.
Et pourtant, je sais que vous avez préparé vos arguments. Dans la partie historique, vous allez me dire qui est selon vous le meilleur rookie de l'histoire. Voilà, le meilleur rookie de l'histoire. Il y a un gros match là, non ?
Parce que
beaucoup de superstars ont fait des très très bonnes saisons rookies. Hein.
Et puis ça veut dire
et d'autres
n'en
ont pas fait des bonnes.
Ça veut dire quoi, meilleur rookie de l'histoire ? Ouais. Bah écoute, je sais pas moi, le mec.
Qu'est-ce que tu prends en compte ?
Ouais, c'est ça, il y a plein de choses à prendre en compte.
Les stats,
bien
sûr,
la saison personnelle, l'équipe, les résultats, l'impact sur la ligue, beaucoup de choses.
Bah, donc c'est compliqué.
Ah, peut-être que LeBron James est bien placé quand même. Peut-être, je sais pas moi.
L'avantage, c'est que LeBron James est souvent bien placé quand même. C'est pas,
exactement.
Pas souvent.
Même dans les finales perdues, il est bien placé.
Mais c'est vrai.
Oui, numéro 2.
Et puis, dans le quiz, j'espère que vous avez bien révisé vos Spurs.
Voilà, compliqué de trouver le thème, c'est quoi ?
Eh bien, le thème, justement, c'est très simple. C'est les Spurs. Et c'est historique. Je suis vraiment pas allé chercher de dinguerie. Il n'y a pas de question cinéma. Il n'y a pas de dinguerie.
Bon, j'ai pas beaucoup de chance alors.
Et c'est pas si facile, hein. Attention, hein.
Ça tient qu'un fil.
Les Spurs, c'est une grande
comme
grande
la hip-hop music.
Ok, bah, je vois que vous êtes prêts. On y va, c'est parti pour un spécial Wembanyama et les Spurs.
Smith.
You know how hard that is to do?
It's still one leg.
Yeah.
Wembanyama. Oh, goes back. Oh, no. And puts it down.
Are you kidding me?
Oh, it's knocked away by Wembanyama. Knocked away by Wembanyama.
Up Wembanyama goes right by Durant.
Alors la saison de Victor Wembanyama est incroyablement bonne, la saison des Spurs est incroyablement mauvaise. Question, les Spurs font-ils perdre du temps à Wembanyama ? Voilà la question que je vous propose. Arnaud, fais-nous un petit point sur la saison de Victor en chiffres.
20 points, 10 rebonds, 3 passes, 3,3 contre où il est le numéro 1 de la Ligue. Au pourcentage, il est à 47% et allez, 31% à 3 points. Mais surtout, quand je dis ces 20 points, 10 rebonds, ils ne sont que 6 dans la Ligue à afficher 20 points et 10 rebonds. Et quand tu vois les noms, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Anthony Davis, Bam Adebayo et Domantas Sabonis et Victor Wembanyama, c'est quand même du bon monde. Surtout quand il joue et qu'il est sur le terrain, les Spurs ont un defensive rating qui est parmi les meilleurs de la Ligue. Par contre, quand il n'est pas là, c'est une véritable catastrophe. Il n'a manqué que 5 matchs sur 52. C'était une de nos principales interrogations. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner enchaîner. Certes, il était longtemps en restriction de minutes. Là, il commence à presque jouer 30 minutes par match. Et surtout, la régularité sur les 27 dernières rencontres. 21 fois, il a marqué plus de 20 points. Et quand il ne marque pas de 20 points, il est au moins presque à 15 points inscrits. Une pointe à 38 points cette année, qui est son record. Il avait mis aussi 33 points contre Philadelphie le jour où Joel Embiid avait fait péter les 70 points. Bref, c'est quand même pour Victor Wembanyama une saison d'une très grande régularité pour ses débuts en NBA.
Et avec une équipe qui gagne toujours aussi peu de matchs, c'est même à désespérer. Évidemment, ce n'est pas une surprise, mais ils sont désormais à 11 victoires, 47 défaites. Alors, on connaît le projet, on sait que ça se passe comme ça en NBA. C'est ni le premier, ni le dernier grand talent à intégrer une franchise faible qui va progresser, pas de souci. Malgré tout, est-ce que vous estimez qu'il perd son temps à San Antonio, Fred ?
Alors, j'ai beaucoup changé d'avis par rapport à ça. Il n'y a pas très longtemps, je t'aurais dit oui. Je t'aurais dit oui parce qu'effectivement, ça me semblait complètement fou de ne pas suffisamment l'utiliser, tout ça. Sauf que quand tu regardes réellement sa saison, tu te dis, quand il arrive en NBA, c'était quoi la plus grosse crainte ? Qu'il se blesse, qu'il ait un rookie wall et que ça soit dur pour lui d'enchaîner. Parce que physiquement, on le trouvait trop frêle. Finalement, il a raté très peu de matchs. Il est plutôt constant dans l'effort. Il n'a pas eu de rookie wall. Il continue à progresser. Tu demandes quoi de plus ? Mm-hmm. Tu sais que cette équipe, elle ne va pas être compétitive. Donc autant tanker, à la limite. Alors oui, bien sûr, moi j'ai de la frustration de me dire Victor, il pourrait faire plus. Oui, Victor, il pourrait être dans une meilleure équipe. Évidemment. Mais je préfère largement cette frustration que la frustration de me dire il est baissé 6 mois. Où il joue un back-to-back sur deux, où il ne joue pas, où on ne sait pas s'il progresse vraiment. Il progresse, il est très bon quand il est sur le terrain, il est très régulier, et je trouve que sa gestion, elle est finalement parfaite. J'ai même quasiment envie de dire un mea culpa par rapport à Popovic. Non, d'accord. Non, je n'irai pas jusqu'à gagner du temps, mais en tous les cas, le taf est fait, il est sur le terrain. Et c'est vraiment la crainte principale.
Le seul enjeu de sa saison, c'est qu'il progresse.
Son enjeu, c'est de progresser, de ne pas se blesser et d'apprendre le système NBA, entre guillemets. Mm-hmm. Ben, dis-moi qu'il ne fait pas ça.
Steve, est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui. Après, on ne va pas passer de... Rappelez-vous, quand la loterie pick est tombée et qu'on a appris Victor allait aux Spurs, tout le monde était content, tout le monde était heureux, tout le monde disait que c'est la franchise parfaite pour Victor Wembanyama. On ne va pas arriver aujourd'hui pour dire bah, finalement, c'est une énorme erreur d'être aux Spurs et finalement, les Spurs sont néfastes à l'évolution de Victor Wembanyama. Je rejoins Fred sur... Pour moi, je vois l'évolution du joueur par rapport à son premier match NBA et à ce qu'il produit aujourd'hui. Je vois une énorme marge de progression. Il a progressé sur énormément de choses, sur la lecture, sur le relationnel avec ses partenaires, sur défensivement, sur les timings pour aller au compte, sur les lectures des attaques adverses. Il a progressé sur tous les points. Est-ce qu'il aurait pu progresser dans une équipe qui gagne des matchs et qui a des objectifs de play-off ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on l'aurait laissé faire des erreurs comme il a fait au début de saison avec cette équipe-là ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que Victor est exaspéré par la défaite ? Oui, il est exaspéré par la défaite parce qu'il n'a jamais connu ça.
Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire.
Et tant mieux, mais on n'est pas surpris de savoir que le process des Spurs, c'est d'ici 2-3 ans, être en play-off et plus si affinité. On le savait, ça. Les Spurs, ils ont 30 choix de draft à leur disposition. À un moment donné, quand ils auront estimé que Victor est... pas à maturité, parce que la maturité va arriver plus tard, mais Victor a besoin d'être entouré pour prétendre aux play-offs et titre NBA, ils vont faire des choses, les Spurs. Mais ça passe par l'apprentissage, le développement de Victor, mais des autres aussi, parce que les Spurs, c'est pas Victor Wembanyama, il va pas y aller tout seul en finale NBA. Il faut que les Jeremy Sohan, les Devin Vassell aussi progressent, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce que ces garçons-là font partie du process avec Victor Wembanyama. Mais moi, je suis pas hors de question pour moi de dire qu'ils font perdre du temps à Victor Wembanyama. Alors bien sûr, t'aurais voulu le voir où, toi ?
Non, je
directement
pas,
dans une bonne franchise.
Moi, au départ, j'avais parlé de Houston et quand tu vois ce que Houston est en train de faire là, c'est très compliqué. Et Portland, j'en parle même pas. Franchement, j'en parle.
Mais comment vous expliquez, messieurs, que équipe,
je sens que ça va être chaud. Hein,
ah ouais, je suis chaud bouillant. Évidemment, je veux pas être définitif et qu'on sait que les Spurs, il y a un projet à 2-3 ans. Mais aujourd'hui, je me dis déjà, les Spurs, c'est une équipe qui est une EDN qui ne fait pas d'énormes moves sur le marché des free agents. Alors, il y a eu un deal LaMarcus Aldridge qui est finalement peut-être le plus marquant ces dernières années, mais il ne paye jamais la luxury tax. Donc, c'est une franchise très prudente, comme l'était un peu le Thunder au moment où ils avaient Harden, Durant, Ibaka, Westbrook et qu'on ne voulait pas trop payer de luxury tax. Donc, James Harden, on l'a envoyé ailleurs. Moi, ce qui me choque un peu, c'est comment une équipe qui a fait 19 victoires l'an passé, sans Victor Wembanyama, il y a Jacob Poeltl dans la raquette avec Zach Collins. Donc c'est-à-dire 27% de victoires.
Tu respectes pas Poeltl, qui est un bon joueur.
Qui est un bon joueur, mais c'est pas Victor Wembanyama. Mais comment cette équipe...
Il est un peu épais, il est Poeltl.
Comment cette équipe qui a fait 27% de victoires en étant pas très bonne, tu rajoutes Victor avec globalement les mêmes, les Devin Vassell, les Trey Jones, les Jeremy Sohan, les Zach Collins, je te dis pas que c'est des foudres de guerre, même si j'aime Keldon bien Devin Vassell. Keldon Johnson est évidemment l'élément le plus expérimenté. Comment en rajoutant Victor à cette équipe-là, tu ne fais que 19% de victoire.
Parce que
tu
as tout changé ta façon de jouer au basket. Tu as tout changé.
Mais c'est-à-dire que personne n'a progressé.
Tu as tout articulé autour de Victor Wembanyama.
Pas au début.
Comment ça, pas au début?
Bah, pas au début. Victor, il n'avait pas un ballon.
Au début, il y avait un process. Sohan était meneur de jeu et Victor jouait poste 4. Maintenant, Sohan joue poste 4. Et Sohan, je pense, va être un très bon joueur NBA dans quelques années. Et Victor joue poste 5. Il a fait progresser ses garçons à la philosophie de Pop. C'est pas un sénile, Greg Popovich. Alors, il est âgé, mais il fait pas caca dans sa couche.
Est-ce qu'il a encore la gagne en lui? Moi, je sais pas.
Pop, il a encore la gagne.
Bah, je sais pas, je me demande. On va prendre notre temps, la patience.
Ouais, mais toi,
je veux bien jouer au basket. C'est
toi, c'est l'inverse. C'est la culture de l'instant. C'est-à-dire que si tu
gagnes pas, tu ne gagnes pas. Il y a beaucoup trop d'impatience autour de Victor Wembanyama.
Il y a 40 matchs. Mais gagner un peu plus en pourcentage victoire que cette année, je vois pas comment ils peuvent arriver.
Ils vont finir à 20. Ils vont gagner un de plus.
Je suis pas sûr. Déjà, ils avaient atteint 12 victoires en décembre l'année dernière, une saison où ils tankaient. Là, tu peux quand même. Tu te développes pas en faisant moins bien que l'année d'avant.
Mais tu développes. Je pense que tu confonds deux choses. Tu confonds.
Mais c'est pas
te développer
le même basket,
et développer tes joueurs. Ça n'a rien à voir. Et le but de Popovich, c'est développer ses joueurs pour qu'ils apprennent
mais
à jouer ensemble.
Tu développes pas en prenant des 20 points contre Utah.
Mais pourquoi? Pourquoi tu fais travailler? Tu sais ce qu'il faut pas faire. Tu leur apprends ce qu'il faut faire et tu progresses. Et en même temps, quand tu vois comment ils ont bougé à la trade deadline, McDermott que tu envoies, c'est le seul truc que tu fais.
Il y avait un gros contrat.
Ça veut dire que concrètement, tu fais de la place. Déjà, et surtout que tu t'en fous de la saison.
Oui.
Par
tu laisses,
au
tu laisses les gamins, tu laisses,
la
les gamins
pour qui
tu laisses les gamins vivre entre eux, progresser entre eux, apprendre.
Mais bien sûr.
C'est pour ça qu'il a enlevé tous les vieux. Il y a pas un vieux dans cette équipe. C'est que des gamins entre eux.
C'est
McDermott qui avait 32 ans. Et aujourd'hui, il y a que des gamins qui apprennent à vivre ensemble, qui apprennent à vivre des échecs.
Mais ils ont des talents.
Oh oui, ils ont le talent. Oui, ils en ont. Devin Vassell a du talent. Jeremy Sohan a du talent. Victor Wembanyama a du talent. Mais c'est des gamins encore qui sont encore bruts de décoffrage dans leur basket. Même Victor est encore brut de décoffrage dans son basket. Mais il y a trop d'impatience. Parce qu'en fait, Victor, les gens l'ont perçu comme un alien qui allait arriver dans la NBA et qui allait prendre.
C'est le cas.
Oui, mais ça reste un sport collectif. Tu peux pas mettre un alien avec quatre autres mecs qui sont un peu moins bons et devenir champion. Ça n'existe pas.
Mais t'en connais beaucoup des numéros 1 draft qui arrivent dans une équipe avec l'attente de Victor et dont l'équipe n'améliore pas son bilan.
Comment ça? Non, ils ont tous amélioré leur bilan. Mais la saison, elle est finie, Arnaud, ou pas?
Non, mais va falloir charbonner pour rattraper.
Si tu veux,
dans
un mois et demi, t'as mon numéro de téléphone et tu me passes un coup de fil et tu me fais le bilan comptable. Là, tu me fais un bilan comptable.
Parce que tu penses qu'ils vont avoir plus de victoires que l'année dernière.
Tu dis qu'ils vont pas gagner 9.
Et ça fait près de 40% de victoire avec les matchs qui restent. Hein.
Bah c'est possible.
C'est impossible.
Sur la fin de saison, t'as des équipes qui n'ont
pas
rien à jouer.
Mais moi, je vois pas en quoi tu avances en reculant quelque part. Alors,
moi, j'ai un exemple concret de ce que tu dis. Okay, tu dis que tous les numéros 1 draft font progresser l'équipe. Okay. Zion, quand il est arrivé, il a fait progression l'équipe. Je suis d'accord. Sauf que Zion, il est où là? Il a pas galéré après? C'est quoi le but? Le but, c'est de faire un one shot, ta première saison, tu es bon, ou tu construis une dynastie petit à petit, tu avances bien, tu travailles bien pour qu'à un moment, cette équipe soit incontournable. C'est quoi le but?
Sauf que t'as 4 ans. Alors tu vas dire, t'as 4 ans pour convaincre
Victor. C'est juste la première année là.
Avec un Victor qui a un salaire quand même assez modeste par rapport à ce qu'il fait, hein, 15 millions de dollars.
D'accord.
Il y a des règlements, Arnaud, tu
as fait
45 millions. Il y a des règlements.
Non, ce que je veux dire, c'est que ça t'offre une belle fenêtre pour attirer des joueurs un peu plus expérimentés. Parce que tu as un Victor qui a un rendement incroyable par rapport au contrat qu'il va prendre dans 4 ans. Et moi, je ne sais pas si les Spurs, là, c'est un point d'interrogation, je ne peux pas être affirmatif, est-ce qu'ils vont réellement donner le matériel à Victor pour être dans...
Mais t'extrapoles, Arnaud.
L'ADN des Spurs, ils ne font jamais venir des mégastars.
D'accord, sauf que la mégastar, ils l'ont à l'intérieur. Pourquoi veux-tu qu'il fasse revenir une autre mégastar? Et là, ils sont en train de développer une mégastar.
Faudra bien l'épauler, ce n'est pas avec l'équipe actuelle.
D'accord, déjà on a parlé de deux joueurs.
Est-ce que Keldon Johnson, c'est clairement le bon lieutenant qu'il lui faut?
Non, mais Keldon Johnson, il va dégager.
Mais lui, il va dégager, bien sûr. Mais
Vassell
et Swan, c'est pas des deux joueurs.
Avec son contrat à 20 millions?
Enfin, tu fais passer Keldon Johnson pour un joueur de Boulazac, quand même. Abuse pas,
Non, mais il me déçoit. Je pensais que c'était un...
Mais il te déçoit pourquoi? Parce que Victor est arrivé dans l'équipe. Forcément que tout le monde, il est descendu en termes de rentabilité, Keldon Johnson. Puisque le projet, c'est Victor Wembanyama.
Oui. De Victor Wembanyama. C'est là que tu trompes, en fait.
Oui, mais ça, je te dis pas que Keldon devait être un meilleur marqueur que Victor. Quand même,
parce que là, personne va dire que cette année, Victor perd son temps. Il fait une saison formidable. Il progresse à vitesse grand V.
Bon. Il va être rookie de l'année. Donc, les Spurs vont permettre à Victor Wembanyama d'être rookie de l'année.
Donc, cette année, il aura pas perdu de temps,
lui,
il en aura même gagné. En revanche, on peut se poser des questions sur l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce que les Spurs sont capables de construire autour de Victor, qui va être très vite un joueur performant, suffisamment performant pour viser très haut. Et ils partent de tellement loin que moi je me pose la question.
Mais ils ne sont pas oubliés sur le début de la dynastie.
Moi je me pose la question, c'est vrai.
Est-ce
qu'il n'y a pas un risque d'une carrière à la Garnett? Est-ce que les Spurs sont capables de faire ce qu'est en train de faire au KC?
Elle est pourrie, la carrière de Garnett.
Elle est lente, la carrière de Garnett, avant d'exploser quand même. Avec le talent qu'il avait, je veux dire, il en a passé des saisons moisies quand même à Minnesota.
Enfin, il y a des campagnes de playoffs.
Minnesota, ils ont gagné combien de titres?
Ben zéro.
Ouais, et Popovich, on a gagné combien?
Non mais je veux dire,
tu es en train de me dire que tu compares Minnesota avec les Spurs qui ont dans l'ADN de gagner.
Je te dis que Arnaud soulève un point très important. Est-ce que les Spurs vont être capables d'améliorer
et de le garder
rapidement cette équipe?
Mais vous pensez quand même
pour en faire une machine capable de gagner le titre.
Dans tes propos, Pierre, dans les propos d'Arnaud, ça veut dire que vous pensez que les Spurs sont pas conscients de tout ça, qu'à un moment donné, ils vont devoir faire une équipe compétitive.
Ils partent tellement loin que tu peux.
Ils ont 30 tours de draft à balancer aux autres équipes pour récupérer. Vous vous rendez compte ce que c'est, 30 tours de draft? Ils ont tout en magasin. En fait, ils jouent au poker, mais ils ont pas envie de jouer. À chaque fois, ils ont les as, en fait. Les Spurs se disent je jette les cartes jusqu'au moment où il va y avoir un joli pot. Ils vont dire, ah bah tiens, mais ça, je vais les jouer. T'as 30 tours de draft. Ils sont conscients, les Spurs. Ils vont pas faire 4 années avec une équipe moyenne à gagner entre 15 et 30 matchs.
Non, mais
ils savent très bien qu'il y a trop d'enjeux à la fin du contrat de Victor Wembanyama dans 3 ans.
Moi, j'ai une question. Imagine, tu fais venir une superstar. Est-ce qu'il se développe autant Wembanyama cette année?
Je te dis pas qu'il faut faire venir une superstar. Non, mais je dis qu'autour de lui, il y a tellement peu que c'est inquiétant, en fait, c'est tout.
Oui, mais ils ont l'argent. Ils ont les tours de draft. Ils ont la possibilité d'attirer des gens parce que justement la culture de la gagne. Et Victor effectivement va faire venir des mecs. Moi je me dis.
Mais sur l'argent, je te répète que c'est pas dans l'ADN de cette équipe d'aller mettre un gros contrat sur un free agent quand il brille. C'est un choix de draft élevé. David Robinson rejoint 6 ans après par Tim Duncan après la saison blanche de David Robinson. Et derrière, tu as fait des coups exceptionnels avec un Tony Parker drafté bas, un Manu Ginobili derrière, et tu as gardé ensuite ces tours de draft. Tu n'as jamais eu un apport extérieur. Et Kawhi, évidemment, récemment.
Mais qui te dit que parmi les garçons qu'ils ont draftés ou qui vont drafter, ou Jeremy Sohan ou Devin Vassell, ces garçons-là ne vont pas être capables de devenir des bons joueurs comme.
À OKC d'il y a 3 ans. Est-ce que vous voyez une différence ou pas entre les Spurs et cette équipe d'OKC qui était lamentable aussi, hein, attention. Hein,
qui était honteux.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle ou pas? Ou est-ce qu'il y avait plus de talent?
Non, on peut le faire.
Ah, OKC.
Alors, si tu pars sur la star, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, je pense qu'il n'y a pas photo. Victor Wembanyama.
Mais ils l'ont fait venir, ils ne l'ont pas drafté.
Oui, ils l'ont fait venir. Il était aux Clippers. Oui. Mais ça reste la star de l'équipe maintenant aujourd'hui. Ça a été construit autour de Shai. Enfin, quand je préfère construire autour de Victor Wembanyama plutôt qu'autour de Shai Gilgeous-Alexander qui fait une saison énorme et qui va être top 3 MVP. Moi, je trouve que les Spurs sont de l'avance par rapport à OKC.
De l'avance.
Oui. Okay. Et tu peux même revenir en arrière sur. Rappelez-vous les Sixers quand ils draftent Joel Embiid. Ils ne jouent pas les deux premières saisons, Joel Embiid. L'histoire de Trust the Process et compagnie, les Sixers, ils sont nuls.
Oui,
ils sont nuls. Et aujourd'hui, Joel Embiid a permis à cette franchise-là 2 ans off parce que blessé. Aujourd'hui, Joel Embiid est un des meilleurs joueurs de la ligue. Et les Sixers, alors bien sûr, les Sixers sont encore décevants. Là. D'ailleurs, ils font que de dégringoler. Il va peut-être faire un basket sur les Sixers.
Justement.
Joel Embiid n'est plus là. Mais il y a des équipes. Il y a beaucoup de similitudes avec beaucoup d'équipes dans la ligue, ce qu'en train de faire les Spurs.
Ouais, sauf qu'eux, ils ont un avantage. Je me répète, eux, ils savent gagner. Eux, ils l'ont déjà fait.
Oui.
Et ils ont des
dirigeants qui maîtrisent.
Mais bien sûr. Et quand j'entends Arnaud qui, en gros, ils sont pas sûrs de conserver Wembanyama. Wembanyama au bout de 4 ans, mais bien sûr qu'ils vont le conserver, ils vont mettre l'argent sur la table.
Ils peuvent mettre un contrat max, mais je pense que Victor, ça lui suffira pas d'avoir un contrat max.
Mais ils vont
gagner. C'est tout l'environnement.
Mais c'est l'environnement parfait pour gagner. Ils ont Pop, il va former quelqu'un après pour prendre le relais.
Pop, il est plus tout jeune.
Mais il va former quelqu'un, mais je suis désolé, sa gestion de Victor Wembanyama,
elle
est excellente.
On continue sur ce spécial Victor et les Spurs.
Il y a une Giannis Antetokounmpo à Milwaukee au début quand il arrive. Alors c'est pas un premier choix de draft, mais il est tout frêle. Et vous avez, t'as pas vu son film sur Prime là qui est sorti?
Non.
Je vous conseille, c'est très sympa. Bref, les Bucks sont pas bons aussi. Ils laissent le temps. Et Giannis, c'est devenu une franchise. Qui pensait qu'Giannis allait prolonger pour le max à Milwaukee, un petit marché? Qui pensait que les Bucks allaient être champion NBA? Ils le sont, champion NBA. Il y a plein d'histoires comme ça. Attendons de voir.
Jokic.
Nikola Jokic avec Denver aussi, mais là on est sur un autre truc parce que le mec il était drafté, il y avait une pub de burger à la place, il n'y avait même pas sa tête. Mais vous voyez, c'est une émission d'impatience là qu'on est en train de faire. Une émission d'impatience.
Oui, mais ouais, c'est parce que moi je ne vois pas pour l'instant, défensivement, il encaisse juste 2 points de moins, c'est un panier de moins par rapport à l'année dernière où il tankait. Et d'ailleurs, je ne vois pas quel est l'énorme intérêt. Enfin, tu vas me dire, est-ce que tu veux absolument tanker? On n'annonce pas une classe de draft 2024 absolument incroyable.
C'est, pour ça,
si
que, c'est pour ça que je vous dis que les Spurs vont bouger, parce que c'est pas, avec tout le respect que j'ai, c'est pas Zachary Zaché et Alexandre Sarr l'année prochaine, s'ils rejoignent les Spurs, qui vont faire que les Spurs vont gagner 50 matchs l'année prochaine. C'est pour moi, ils vont pas bouleverser.
On continue sur ce spécial Wembanyama et les Spurs. C'est Basket Time, c'est tous les mardis sur rmc.fr en podcast.
Ciao, il était silencieux.
He's special, you know. He has an unbelievable coach that's going to make sure he does things the right way. He's going to continue to develop.
Wembanyama with his 6th rebound already. He's got 3 steals, Sean, 2 blocks. Played 7 minutes. And he's got an and-one coming up to try to make it 16 points. Jeremy lobs it up. Victor throws it down.
Yeah, that's what the fans came to see.
He's already special, but he's going to continue to get better and better and better, you know, each and every game, each and every year that he steps on the floor.
Victor, crossover on Anthony Davis for 3. Got it! Victor Wembanyama! The first 5x5 game in the NBA since Jusuf Nurkic, January 1st of 2019.
The Victor show continues.
Beautiful morning. Alors après le débat collectif, on va faire le débat sur les perfs individuels parce qu'il est impressionnant. Victor Wembanyama a réalisé un 5x5. C'était face aux Lakers, Fred, c'est bien ça?
À Los Angeles.
Au moins 5 dans chaque catégorie statistique, points, rebonds, passes, contre et interceptions.
C'est que moi aussi j'ai fait ça, au moins 5 dans 5 matières à l'école.
Ouais, mais il y avait
5 sur 20 en anglais, 5 sur
5 heures de colle.
Oui, aussi.
Mais alors en plus, c'est pas n'importe quel 5x5 puisque c'est un 5x5 avec
et
triple double.
Et maîtrisé quand même avec toi.
C'est un peu les chaussettes de l'archiduchesse. Le 5x5x5.
C'est important, hein, le triple double, c'est seulement le deuxième après Hakeem Olajuwon en 1987. Donc ça vous pose la performance. Hein. Oui.
Complètement.
Eh oui, ça change tout, hein, parce qu'il y en a eu une quinzaine, mais celui-là, il est presque unique. Est-ce que vous pensez que c'est inéluctable qu'on verra un jour Wembanyama devenir le premier joueur de l'histoire en quintuple double? Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Oui ou non, Frédéric Weiss?
J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que c'est sur les steals que je suis inquiet.
10 interceptions.
10 interceptions, c'est beaucoup.
Un match
c'est
avec
beaucoup.
Double prolongation, c'est réglé.
Oui, enfin, c'est, honnêtement, pour un pivot, parce que finalement, il joue quand même pivot, donc lui, il est plutôt dans la protection du cercle, donc forcément, il sera moins sur les lignes de passe. Et pour voler des ballons, il faut être beaucoup sur les lignes de passe. 10 interceptions, ça paraît beaucoup. Quadruple-double, moi, je signe maintenant.
Alors, quadruple-double, c'est déjà exceptionnel, puisqu'ils sont que 4.
Hein. Le dernier, David Robinson,
c'est pas une question du quiz. Hein.
Non, je sais,
en 1994, le dernier, à 34 points, 10 passes, 10 rebonds, 10 contres.
Et ça, là, ça je signe tout de suite qu'il le fera. Moi, c'est
moi,
les interceptions.
J'y crois.
Avec des contres.
Avec des contres.
On est d'accord.
Ouais.
Toi, t'y crois?
J'y crois.
Arnaud.
Il a fait une pointe à 6 interceptions contre Denver en ne jouant que 25 minutes, si tu rapportes sur 48.
Il
un petit produit en croix. Comment?
Il avait fait combien de contres? J'ai pas entendu.
Il a fait 6 interceptions.
Oui, mais il avait fait combien de contres?
4 contres ce soir-là. Mais si tu fais petit produit en croix.
Un ou l'autre, oui. En fait, c'est ça le truc.
Mais ouais. Si tu fais un produit en croix sur 48 minutes, t'es à 11,52. Ouais, donc ça veut dire que.
Une règle de 3.
Moi, j'ai pas eu 5 en
règle de 3.
C'est quoi un produit en croix?
C'est un
carré, tu mets un chiffre en dessous et tu multiplies, ouais, tu divises, c'est ça?
Le problème, Arnaud, ouais, c'est qu'il jouera jamais 48 minutes avec.
Non,
avec
l'espoir, jamais. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il va forcément jouer plus. À un moment, tutoyer les 40 minutes. Alors après,
et en
la
plus,
question,
lui s'améliorer.
Lui s'améliorer. Je pense que dans un soir incroyable, c'est possible.
Donc tu es en train de me dire que lui, qui va prendre une dimension incroyable au niveau du scoring, qui va déjà s'occuper d'aller contrer, de protéger le cercle, de prendre des rebonds, il va dire, allez, en plus, je vais être sur toutes les lignes de passe pour voler des ballons.
Moi, je pense qu'il l'a dans sa tête.
Ponctuellement, tu peux avoir un match.
Oui, un match où il y a beaucoup de choses, qui tournent à ta faveur. Mais alors, avant de préparer l'émission, j'ai regardé les highlights de Draymond Green quand Draymond Green fait son triple double avec 10 interceptions. Si on compte les interceptions aujourd'hui en NBA, comme on a compté les 10 interceptions de Draymond Green, je pense que c'est possible. Allez voir les images sur YouTube.
Il
y a 3 ou 4 interceptions où il dévie le ballon juste, il touche avec sa main, mais c'est Kevin Durant ou Clay Thompson qui récupère et qui part. Si ça, c'est une interception, alors Victor Wembanyama peut faire le quintuple double.
Ouais, c'est pas dur.
Non, c'est dur parce que Fred l'a dit, les joueurs extérieurs sur les deny, ils vont couper les lignes de passe, donc tu peux dévier des ballons. Victor, il est souvent cantonné dans la raquette. Alors, les skips passent, les passes dans le petit périmètre, sur les short rolls, peut-être qu'il va pouvoir les toucher, les dévier. Mais 10 interceptions, c'est énorme. Hakim a été peut-être le plus proche de faire le quintuple double en 90. Il lui manquait une passe et 5 interceptions alors qu'il avait fait un match de mutant. Mais tu sais qu'il y a une légende qui dit que Will Chamberlain l'a fait.
Oui, j'ai vu ça.
C'était pas comptabilisé.
Et il y a des gens qui disaient dans la salle que en plus des points rebonds et passes, il avait fait 24 contres et 11 interceptions.
Il avait chopé 50 numéros de téléphone aussi.
Oui,
24 contres
et 11 interceptions. Mais problème, c'est que, et alors que 3 ans après, il commençait à comptabiliser les contres et les interceptions. Mais en 68, il faisait que 3
numéros. Non, mais Hakim n'était pas loin. Mais c'était aussi à une époque où la NBA, le rythme était aussi beaucoup plus lent. Il y avait moins de points, moins d'actions, moins de possessions. Donc, quelque part, la NBA d'aujourd'hui peut aussi aider Victor. Je suis d'accord que ça serait monumental de réussir
c'est,
ça.
C'est déjà
Alors, mais j'y crois.
Ça serait, tu vois, ça m'ennuie ce truc-là. C'est déjà monumental.
Non, mais rien que faire.
5x5, c'est juste monumental.
Mais ça, il va banaliser ça. Il va y en avoir d'autres.
Oui, bien sûr.
Il va y en avoir, j'ai envie de te dire, 5 ou 6
ça,
par
déjà,
an.
C'est dingue.
Sauf que c'est dingue.
Oui, c'est ouf. Même. C'est ouf. Et qui vous dit qu'en moyenne.
Rien que le quadruple double va être fou.
Et qui vous dit qu'en moyenne, un jour, il ne sera pas en 5x5?
Moi, j'y crois.
Alors, justement, mais moi, pour moi, ça, c'est un argument. C'est-à-dire que le mec est déjà à plus de 3 comptes pour sa saison rookie. Donc, tu peux imaginer que dans ses plus belles années,
s'il joue 6 ou 7 minutes de plus,
il soit à 5, 6, peut-être plus comptes de moyenne, ce qui serait monstrueux. Ouais.
Tu sais ce que j'ai parié.
Mais du coup, tu peux imaginer qu'il fasse des matchs à 10 contres plusieurs fois dans la saison. Oui. Tu peux l'imaginer.
Si jamais
tu te retrouves dans un match qui devient fou, un match à 180 points avec 3 prolongations, c'est pas impossible que ça arrive.
Mais tu sais qu'en NBA, il y a tellement de matchs sur une saison régulière, Fred, qu'il y a du paranormal des fois.
Oui, c'est vrai.
Il y a du paranormal des fois.
Mais tu vois, j'ai vu Shea faire 10 interceptions, je crois, il y a pas très longtemps, et c'était fantastique déjà.
Oui.
Sauf que Shea, t'as vu les cannes qu'il a.
Et la vitesse de bras, il vole des ballons sur les dribbles et tout.
Et voilà. Et je me dis, Victor, il peut pas faire ça en fait.
Et il défend rarement sur un type qui a le ballon aussi.
Donc, il défend rarement sur un mec qui a l'isolation.
Si on fait de la fiction, tu sais peut-être qu'il deviendra, parce que là on parle de son jeu, on parle pas de sa personnalité, mais qui te dit qu'il devienne pas un énorme glouton, un mec qui fait peur, un Jordan qui va impressionner son adversaire au point que les rookies vont lui donner le ballon peut-être juste en voyant son promis.
Tiens,
tu vois, parce qu'ils auront peur de se faire bâcher ou je sais pas, peut-être qu'il va avoir des stats faciles à un moment de sa carrière.
Je pense qu'il n'a pas le caractère de Jordan. Je pense pas que ça soit un animal.
Mais t'as vu déjà comment
Jordan, dès qu'il arrivait,
il est déjà le leader de l'équipe.
Peur.
Il leur dit il faut être plus intelligent, il faut savoir s'adapter,
évidemment.
Il faut savoir faire
mais
ci,
être
faire
un
ça.
Leader et être un tueur à gages comme Jordan, c'est pas pareil. Hein.
Eh oui,
ça,
mais...
tu l'as ou tu l'as pas. Je pense que c'est un bon garçon.
Quand tu vois arriver le bonhomme, imagine-le avec 5 ans d'expérience, une musculature à la Giannis, mec,
je lui souhaite pas qu'il ait une musculature.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, il va quand même encore s'étoffer, il va devenir impressionnant.
Mais
il a des belles épaules.
Quand tu peux double, c'est irréel en fait. Ça a été fait qu'en high school.
Mais ce gamin
a été fait qu'en high school. Il y a 4 jours, il y a une fille qui l'a fait en high school, mais quand tu peux double, il faudrait que toutes les planètes soient alignées, qu'il y ait 2-3 oiseaux en face, qui fassent des passes de merde dans les bras de Victor, et tu vois, tu grattes vite 4-5 interceptions à la mi-temps.
Tu joues contre Portland ou Détroit.
Voilà, exactement.
Oui,
pour une équipe
Wizards.
Tu sais pas.
Mais quelqu'un, tu peux double. Tu sais que. Ouais, non.
Toi, tes stats les plus proches d'un triple double, c'est quoi, Steve?
Bon, je pense qu'il m'a manqué. Alors, j'ai déjà fait plus de 10 rebonds et j'ai déjà fait plus de 10 points. Mais jamais les 3 en même temps. Non.
2 en même temps, quand même, oui.
Oui, double-double, j'ai fait.
Des matchs à 10 contre.
Final de Korać, j'ai fait plus de 10 points, plus de 10 rebonds et 7 contre.
Aïe.
Oh.
Mais tu l'as gagné la finale?
Bah oui.
Bon, donc t'étais pas trop dégoûté?
J'étais pas dégoûté du tout.
T'en foutais d'avoir 3 contre 2.
C'est des mecs qui m'ont dit après.
C'était quoi, Bilbao?
C'était à Bilbao, ouais.
Ouais, il est bon le mec quand même, hein. Arnaud, je te demande.
Moi, j'ai fait un one by one, si tu veux. Un point, un rebond.
Tu veux une petite anecdote sur ces chiffres-là? Tu sais que Larry Bird, en 85, il n'est pas passé loin du quadruple-double. Il était à 30 points, 12 rebonds, 10 passes et 9 interceptions avant le quatrième quart-temps. Son coach, Casey Jones, alors que Boston menait facilement, il lui dit, bah, vas-y, rentre dans le quatrième. Et Bird a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Et il répond avec cette phrase mythique, j'ai déjà fait suffisamment de dégâts comme ça. Il est resté sur le banc, il n'a pas joué du quatrième quart-temps.
Ouais, mais c'était un monde qui était moins de stats aussi. Oui, alors lui était particulier. Et en plus, le monde était moins de stats que maintenant.
Lui, on néglige quand même la personnalité. Hein.
Oh, c'est exceptionnel.
On n'en parle pas assez. Hein.
On en a parlé. Hein.
C'est un Basket Time spécial Victor Wembanyama et les Spurs. Voici la partie historique.
Michael Jordan. MJ's once-in-a-lifetime greatness could be seen basically as soon as he set foot on the court for the first time.
Jordan going and throws it up. Basket, he puts it in on an amazing move.
This guy is tough. He's tough.
Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain.
Wilt wasted no time to show everybody who's the boss. He won the Rookie of the Year, the MVP, and the All-Star Game MVP in 1960.
Robertson moving into the circle. Robertson shooting.
Robertson hits. He has 31 points.
Larry Bird makes a beautiful steal from Bingo Smith.
From behind his back, it's the rookie. Libby fouls him, and Magic Johnson steps up to that free throw
line. In the 1980 NBA Finals, Magic would score 42 points and dished out 15 assists. His performance earned him the 1980s Finals MVP, the first and only Finals MVP won by a rookie.
Alors, voici la partie historique. Qui est, selon vous, le meilleur rookie de l'histoire? On va même débattre des arguments, hein. On va même débattre des critères, je veux dire, hein, pour désigner le meilleur rookie de l'histoire. Juste un mot quand même, puisqu'on est sur Victor Wembanyama. On est d'accord que le débat avec Chet Holmgren...
Ça fait un mois qu'il est réglé.
Ça fait un mois qu'il est réglé. Bon, quand même, on s'est amusé à croire qu'il y avait un match à un moment.
Oui, alors Victor va être rookie de l'année. Par contre, Victor, il regardera les matchs de Chet sur son canapé fin mai, voilà.
Ça, on est d'accord, mais...
Il est les deux points. Rookie, c'est fort quand même.
Mais sur l'histoire du rookie de l'année, il y a vraiment
terminé,
pas photo là.
Hein.
Bon, alors qui est le meilleur rookie de l'histoire, Stephen Brun?
Écoute, moi je vais partir sur Michael Jordan, sans grande surprise. Sa saison rookie, elle est de 84-85. Il est drafté en troisième position par les Bulls, tout le monde le sait, on va pas refaire l'histoire. Saison rookie d'exception. Déjà, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel pour Michael Jordan? C'est qu'il a joué l'intégralité des matchs de la saison régulière, 82 matchs. Il n'a pas loupé une seule rencontre. Aujourd'hui, quand tu vois, ça paraît exceptionnel aujourd'hui, par les temps qui courent. Ensuite, 38 minutes par rencontre, 28 points, 6,5 rebonds, 5,9 passes, 2,4 interceptions à 53% à 2 points. C'était le rookie cette saison-là qui a mis le plus grand nombre de points en NBA, pas la meilleure moyenne, puisque Larry Bird a loupé deux matchs, donc il a 0,3 ou 0,4 en moyenne, mais en nombre de points total, c'est Jordan, le leader de la NBA, meilleur scoreur, meilleur passeur, meilleur rebondeur. Et deuxième contreur des Bulls cette saison-là, 4 matchs à 45 points plus, 3 triple-doubles, dont un match à 35 points, 14 rebonds, 15 passes décisives. 3 triple-doubles cette saison-là. Un record à 16 passes décisives. Il est 6e au titre de MVP, avec plus de première place que Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et Isaiah Thomas. Il est derrière Bird, Magic, Moses, Malone. Il est All-NBA Second Team. Il est bien entendu All-Star, bien entendu Rookie de l'année. Et... cherry on the cake, il emmène les Bulls en play-off, eux qui n'avaient pas connu la post-season depuis 1980. Voilà la saison
play-off rookie. Play-off dès sa première année.
Exactement.
Et ça, ça va compter dans le décompte, non?
Oui.
Parce que tout à l'heure, tu m'as interpellé, comment on définit le meilleur rookie de l'année? Comment tu le définis, toi, Fred?
Le meilleur à la fin.
C'est-à-dire le meilleur à la fin.
En gros, j'ai réfléchi à qui m'avait le plus impressionné sur son année rookie. Et j'ai pensé à Larry Bird. Larry Bird qui est incroyable, qui est drafté en 78, 6e, qui fait une saison fantastique, qui fait progresser son équipe dès qu'il arrive.
J'ai l'impression que dès sa première saison, il est déjà à son top.
Il est déjà fantastique.
Alors,
il est déjà incroyable.
Quand même demandé, oui, s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait me parler de Larry Bird.
Ouais.
Mais tu as choisi quelqu'un d'autre.
Mais j'ai choisi quelqu'un d'autre. Parce que cette année-là, alors, juste pour expliquer, Larry Bird, quand même, il est drafté en 78. Il dit non, mais je vais retourner à Indiana State pour jouer encore en université. Donc, il refait une saison en université et il se retrouve à être rookie en même temps que Magic Johnson. Donc, cette confrontation qu'on a tant aimée, on la retrouve en NBA pour le titre de rookie de l'année. Alors, le rookie de l'année, je viens de le dire, hein, c'est Larry Bird avec plus de 21 points, 10 rebonds, plus de 4 passes et demi. Donc, vraiment une saison incroyable. Magic qui est un peu en deçà, qui a 18 points, 7,7 rebonds, 7,3 passes. Donc, un joueur plutôt très complet quand même, première saison.
Un peu en
incroyable.
Dessous, pas tant que ça. Hein.
Et j'ai envie de dire, logiquement, comme je te disais, c'est Larry Bird qui est rookie de l'année.
Mais
pour moi, la meilleure saison qui
c'est Magic.
C'est Magic.
Et
pourquoi? C'est assez simple. Parce que c'est sympa de jouer la saison régulière. On s'amuse bien, on est entre copains, on fait des passes. C'est cool. Sauf que Magic Johnson, sa première année, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retrouve en finale contre les Sixers, d'accord ? Et dans son équipe, il a Kareem Abdul-Jabbar, qui est le MVP en titre de cette année-là en plus. Donc, tu te dis, logiquement, cette équipe qui mène 3-2 en plus, Abdul-Jabbar, etc., tout va très très bien. Sauf que Abdul-Jabbar se blesse. Et là, l'histoire commence, et j'en ai déjà parlé ici, hein. Magic va nous faire un match à 42 points, 15 rebonds, 7 passes en finale NBA. Ce qui va le propulser directement comme MVP des finales. En tant que rookie, le premier, et j'ai cherché, j'en ai pas trouvé d'autres. Rookie qui, directement est MVP des finales, qui gagne un titre. Donc pour moi, le meilleur rookie, c'est celui qui est allé au bout et qui en plus est le meilleur joueur du moment où ça compte. Et c'est pour ça que j'ai choisi Magic là, et pas Larry Bird.
Ça va être dur à contrer.
Ouais,
parce qu'au départ...
Mec qui joue avec Kareem Abdul-Jabbar, forcément qu'il va en finale NBA. Ou...
Oui, mais justement, il est MVP des finales parce qu'il remplace Abdul-Jabbar.
Un match.
Ouais, mais 42 points. Ouais, mais il est MVP des finales, il est pas MVP des finales.
Oui, il est MVP des finales.
On dirait Franck Lemeuf, France-Brésil 98, quoi. Il remplace Laurent Blanc.
Oui, mais je pense que c'est difficile de faire mieux.
Au départ, tu es battu d'avance, puisque il est même pas rookie de l'année.
Exactement.
Et donc c'est Larry Bird. Mais c'est vrai que la fin de l'histoire est très importante. Arnaud Valadon, qui est le meilleur rookie de l'histoire.
J'ai choisi LeBron James, drafté normal, première place en 2003. Il y a, au-delà de l'apport statistique que je vais évoquer dans un instant,
pas les playoffs, hein.
Il est pas loin de les faire.
Non, pas loin, c'est pas loin, ça veut dire quoi ?
Il était plus proche de faire les playoffs.
Il va à la salle, il dit « Ah, il n'y a pas de match de playoffs.
Bah, » Excusez-moi, il était plus proche de faire les playoffs que Victor ne sera plus proche de faire les playoffs cette année.
Non, mais là, on parle de Magic, les champions NBA, et Jordan qui va en playoffs.
Je te parle du meilleur marqueur de tous les temps.
Oui, mais pas sa saison rookie.
Oui, ouais, mais il a bien commencé quelque part sa carrière. Alors,
juste une question, il n'était pas en concurrence avec Carmelo Anthony qui avait des meilleurs stats que lui ?
Oui, c'est vrai.
Juste une question. Donc, tu es en train de me dire que le meilleur rookie de l'histoire, c'est un mec qui est
je te parle de la plus belle.
Qu'un autre. Mais
je t'ai pris de mon choix. La plus belle.
Tout à l'heure, t'as voulu faire mal à sur les Spurs. T'as voulu partir à la bagarre. Chacun son tour maintenant.
Je t'ai quand même pris 2003, la plus belle classe de draft de l'histoire.
C'est vrai.
T'as vu le talent incroyable qu'il y a. Donc, c'est normal qu'il y ait de la concurrence.
Non, mais je suis d'accord avec toi. 79, c'était une draft catastrophique.
Jason déroulé. Allez.
Il y avait Larry Bird, Magic Johnson dans la même draft.
Avec 84 aussi, Kata, il y avait Hakim Olajuwon, ouais, numéro 1.
C'est affreux.
Oui.
Alors vas-y, explique-nous, LeBron, qu'est-ce qu'il a fait ?
Donc, l'attente autour de LeBron James, The Chosen One.
Te laisse pas faire Arnaud.
Il a pas fait la fac, il arrive son lycée, couverture Sports Illustrated, la couverture médiatique, ses matchs diffusés, l'attente. Il est le gars de l'Ohio à Akron, drafté par les Cleveland Cavaliers, et il ne déçoit pas.
Les Cavaliers, c'est quoi ?
C'est les mecs qui courent après les Cavaliers.
Là, je peux pas te défendre, par contre, sur les Cavaliers.
Parce que j'ai mangé le Cavaliers. 21 points, 6 rebonds, 5 passes. Il double le nombre de victoires des Cavs. Vous allez me dire,
attends,
c'est normal.
Combien ? 21 points, 6 rebonds, 5 passes.
Oui.
Dans les 3 catégories statistiques, pardon, il est en dessous de Jordan.
Il est en dessous de Jordan, mais après, voilà, j'ai le droit de défendre mon beefsteak. Alors après, là,
et
je vais dire
par rapport à Carmelo Anthony.
On peut laisser parler Arnaud.
Voilà. Il double victoire des Cavs. Alors, vous allez me dire, c'est normal. Ils ont tanké, donc c'est facile de gagner plus de matchs. Mais c'est quand même la meilleure saison des Cavs depuis 98 où vous avez fait venir Sean Kemp de Seattle. Donc, il y a quand même une belle progression d'emblée. Et puis, ils vont finir rapidement en finale NBA en 2007 derrière. Il devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 2000 points à 20 points et 183 jours. Ça sera battu par Luka Doncic, je crois, ensuite. Mais,
Quand tu dis 20 points, c'est à 20 ans que
2000 points à 20 ans. À atteindre la barre de 2000 points.
Mais quel est le rapport avec sa saison rookie, ça ?
Mais c'est parce qu'il l'a fait, parce que record de précocité.
Il l'a pas fait en un an.
Non, il l'a pas fait en un an, mais bon, j'ai noté ça.
Et puis, c'est le meilleur score de l'histoire de la Ligue aussi.
Il finit.
Dis-leur que s'il avait raté sa première saison rookie, il n'aurait jamais atteint les 2000.
9e au classement de MVP directement.
Jordan était 6.
Rookie of the Year. Oui, mais la NBA était très compétitive à l'époque. Il réussit son premier match d'entrée. 25 points, 6 rebonds, 9 passes pour commencer. Il a fait une pointe à 41 points contre les Nets. 6 contre, notamment dans ses top matchs de la saison. 10 blocs contre Toronto. Donc bref, LeBron a répondu aux attentes.
Par contre, tu ne m'as pas cité les 41% de réussite au tir et les 29% à 3 points.
Et t'as vu le temps de jeu, ils étaient un glouton. Ils jouaient plus de 40 minutes par match.
D'accord.
Mais j'ai le droit de prendre LeBron James. Et moi, j'ai trouvé par rapport à la pression qui existait sur ses épaules, qui était simplement incroyable, plus que Victor.
Tu as le droit. Tu as le droit, mais c'est pas un bon choix. Mais tu as le droit.
J'ai le droit. Mais moi, je trouve par rapport.
Moi, tu m'aurais dit Carmelo Anthony, j'aurais dit OK.
À la pression qu'il avait, il a répondu aux attentes et quand on voit la suite, voilà.
Par rapport à la pression, pourquoi pas.
T'es pas convaincu, toi non plus, Pierre.
Non, mais j'y croyais beaucoup à LeBron James parce que, parce que dans mon souvenir, si tu veux, il a frappé fort d'entrée.
Après, Cleveland a fait perdre du temps. Cleveland a fait perdre du temps à LeBron.
Avec Michael Jordan et Magic Johnson, il est en dessous quand même. Là, faut le reconnaître.
Cleveland a fait perdre du temps à LeBron aussi.
Cleveland,
après 2007,
LeBron qui a gagné du temps à Cleveland.
C'était une blague. C'est une blague par rapport au premier talk.
J'avais compris, mais.
Bah, rigole alors.
Non, elle est pas.
Il a pris premier degré, premier degré.
Très bien.
Non, mais je vais vous dire, moi, je suis laissé convaincre par Fred. Hein. Le mec, Fred. Bah, en finale, il est MVP
avec
des finales.
Karim Abdul-Jabbar.
Oui, il est MVP des finales. C'est pas Karim.
Oui, mais il est jamais MVP des finales, c'est pas Karim. Parce qu'il va pas en finale, c'est pas Karim.
Mais est-ce que Jordan, il gagne son
Scottie Pippen? Peut-être qu'avec Karim, Jordan aurait été champion avec les Bulls.
Jordan, c'est le numéro 1, Pippen, c'est le numéro 2.
Ok.
Après, il n'est pas rookie, d'ailleurs.
Oui, mais les
oui, mais
des
toi,
finales,
c'est du bol, c'est Carmelo Anthony.
Je pense que Jordan a réuni tout. Hein.
Dans ta carrière, tu préfères être rookie de l'année ou MVP des finales et gagner une bague?
Première année, tu gagnes une bague. Ah non, mais surtout que tu sors de titre de champion universitaire.
Jordan aussi.
Oui, bah, mais la première année,
on a mis un tir de la gagne.
D'accord, mais c'est pour ça que je dis surtout. C'est-à-dire que tu es champion universitaire et dans la suite, champion NBA,
quoi,
en étant MVP
ouais,
des finales.
On va pas se disputer, toi et moi, on est tout là-haut.
Ouais,
c'est lui qu'on devrait embrouiller. C'est les James qu'on devrait embrouiller.
T'aurais dû prendre la Rebird, Arnaud.
Oui, mais j'ai voulu prendre quelque chose de moderne parce que pour m'adapter à la NBA moderne, puisque là, on prend des anciens.
Je pense que LeBron James mérite d'être cité dans les joueurs qui ont eu un impact incroyable sur la première saison.
Je te prends Oscar Robertson aussi, si tu veux.
Pourquoi pas?
Oui, mais c'est trop tard là maintenant.
Elgin Baylor,
t'avais un choix, t'as choisi au mauvais moment.
Non, parce que j'ai voulu quelque chose de moderne, quelque chose qui a marqué récemment.
T'auras pas la mention, mais t'auras la moyenne, Arnaud. Voilà.
Merci.
10 ouais, mais tout juste, hein. Ouais.
C'est non, bien, 10
5 sur 20.
5 sur 11 et demi.
5 sur 20, moi, je pense.
Ouais. Allez, le quiz. Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en
et là,
premier.
Et là, t'es après ou pas ?
Je vais tout arracher.
Non, mais d'abord, au tableau, Stephen Brun élève Brun.
Oui.
Pour les bonnets d'Anne.
Ouais.
Ouais.
Vous voulez pas respecter les rouquins, les amis. C'est ça votre problème.
C'est très bien, mon petit Stephen. Je te mets ton premier B+ merci, de l'année.
Merci.
Car malgré tes difficultés scolaires, tu t'accroches, tu travailles. Et tu as très bien compris le thème de cet exposé, contrairement à tes camarades. Andrea Bargnani.
Daniel Ena Complex.
Daniel Ena Complex.
Mais pourquoi je vois un demi ?
Attends. Alors, c'est un spécial Spurs, Spurs Wembanyama, Spurs surtout.
Il y aura des animaux du coup ?
Il n'y aura pas d'animaux.
Oh.
Non, il n'y aura pas d'animaux. Et alors, vraiment, c'est l'histoire des Spurs. Hein. J'espère que vous avez révisé l'histoire des Spurs. C'est une franchise quand même qui a des choses à raconter. Hein.
Oui. Mm-hmm.
Alors,
les éperons, pas du tout, les Spurs.
Les éperons. Les éperons, première question sur les éperons.
C'est pas les étrons, hein, c'est les éperons.
Il est affreux ce mec. Quelle est la fonction première de l'éperon ?
De taper sur le cheval pour le faire courir.
Eh bien non, justement, c'est pas exactement ça.
C'est pour
ça.
Nettoyer
l'agriculture.
Quand on arrive, quand tu passes la porte.
C'est pour nettoyer la terre en dessous des sabots des chevaux.
C'est pas pour le faire accélérer le cheval.
C'est pas exactement ça. On croit que c'est pour lui faire mal, pour qu'il booste, mais c'est pas ça.
Pour le caresser.
C'est beaucoup plus subtil que ça.
C'est pour s'accrocher encore mieux au cheval.
Franchement, entre Steve et Fred, vous n'êtes pas très loin.
C'est quoi, tu as une bagarre, tu mets un coup de talon dans les roubignoles.
Pas du tout. C'est pas du tout un truc pour punir le cheval, en fait.
C'est pour le guider.
C'est pour le masser.
Pour le guider, exactement.
Ah oui, quand tu roules le truc, c'est-à-dire que tu vas à droite.
C'est
ou
un prolongement de la jambe du cavalier, puisque la jambe du cavalier est déterminante pour conduire le cheval. Okay. Et en fait, avec l'éperon, il est beaucoup plus efficace.
Il donne des indications, parce que c'était vraiment nul.
Beaucoup plus fine grâce à l'éperon.
C'est pour le guider, donc.
Je donne le point.
Pourquoi ils mettent pas Josh sur le cheval pour le guider?
Josh Giddey.
Très bien, je l'avais pas tout de suite. Je donne le point à personne parce que vous étiez pas très loin.
T'as les infos sur le quintet d'aujourd'hui d'ailleurs.
Sur le quintet d'aujourd'hui. Mais le problème c'est que quand l'émission sera en ligne, le quintet sera déjà couru. Oui.
De mardi alors.
De mercredi. Tu
de mercredi. Ouais.
Oui. Quintet de mercredi, non, j'ai pas d'infos.
D'accord.
Quelle est la capitale du Texas?
Austin.
Austin, Texas.
Ouais. Ouais, tu as déjà fait ça.
Et c'est pas grave, je vous fais réviser, vous êtes nul en géo.
Ah oui.
Donc le premier point,
ça j'avoue, je suis nul en géo.
Et pour Arnaud Valadon. Alors en 1976, les Spurs sont une des 4 franchises de l'ABA qui est en faillite à rejoindre la NBA. Il n'y en a que 4. Un par un, vous allez me donner le nom d'une des 3 autres. Donc Fred, c'est à toi.
New Jersey.
Les Nets, c'est bon, bravo. Stephen.
Les Sixers.
Les Sixers, c'est pas bon. Arnaud.
Denver.
Les Nuggets, c'est bon. Enfin, j'avais demandé le nom de la franchise, c'est limite, mais je te l'accorde. L'autre, c'était les Pacers, Steve.
Très bien.
Donc, nous allons enchaîner.
Et Saint-Louis a disparu.
Nous allons enchaîner avec Tim Duncan, numéro 1 de la draft 97. Sean Sebillops cette année-là est 3e. Racy McGrady est 9e. Voilà pour les principaux noms de cette draft 97. Olivier Saint-Jean est 11e. Drafté la même année que Tim Duncan. Il y a un autre Français dans cette draft.
Jérôme Moïseau ?
Non, pas Jérôme Moïseau. Qui est-il ?
Jérôme, je pense que c'est 2001, je pense. 2004,
oui. En 97 ?
Ouais.
Alain Digbeux.
Alain Digbeux.
Oui, bien joué.
C'est excellent.
Deuxième tour.
Atlanta. Deuxième tour, Atlanta. Bon, il reste à l'ASVEL, oui. Et puis il n'ira jamais en NBA. Mais c'est bien Alain Digbeux qui a été drafté la même année que Tim Duncan et Olivier Saint-Jean. Alors là, je vais vous faire un Duncan ou Robinson.
Ou les deux, ou juste...
Ou les deux, ou aucun
parce
des
que
deux.
Le mec, ils disent vraiment à Miami, Duncan Robinson.
Exactement. Là, c'est Duncan ou Robinson. J'aurais pu vous piéger avec
oui. Ou Duncan Robinson.
Mais ça n'y aura pas de piège. Et je vais vous dire, j'ai bien sûr fait des questions basket. J'ai cherché des questions hors basket. Mais comme on a affaire à deux pasteurs, il n'y a rien d'intéressant. Donc, ce ne sera que des questions basket. Il n'y a rien d'intéressant dans la vie des deux mecs.
C'est vide. Hein.
Pire que Robinson.
Duncan pire.
Duncan, c'est le pire de pire.
Alors, donc, on commence avec Fred. J'ai 9 saisons à plus de 20 points avec les Spurs en moyenne. 9 saisons à plus de 20 points en moyenne.
Les deux ?
Eh bien, il n'y a
Duncan.
Que Duncan. Robinson en a fait 8 à plus de 20 points. Le point ne t'est pas accordé.
Chaud, hein, quand même.
C'est facile.
Arnaud Valadon, j'ai fait les Jeux Olympiques 1996. 96.
Atlanta.
Pas 92.
96.
Ça aurait pu être 84. Hein.
Ça aurait pu, mais ça aurait été aucun des deux, là, pour le coup, non ?
Je crois que David Robinson est là en 84.
84 ?
Je crois que 84, ouais. Mais c'est... Ah bon. C'était les universitaires.
En tout cas, la question porte sur 96.
Par Abidat, je crois. Ouais.
96.
Oh, Robinson.
Robinson, c'est la bonne réponse. Le piège, c'est que Duncan a été drafté après, mais il est.
Il y avait des universitaires des fois. Tu
il avait déjà joué en équipe nationale avant 96.
Ça,
c'est bon pour Arnaud. Steve,
oui.
Je suis Rookie of the Year.
Je suis Rookie of the Year.
Oui, tout à fait.
David Robinson est Rookie de l'année. Tim Duncan est Rookie de l'année. Donc je dirais oui.
Les deux. Deux en ouais. 90, en 98. Bravo, Steve.
C'est facile ça.
Fred.
Oui, moi c'était un an près. Et...
J'ai été meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur contreur la même saison.
De quoi de
sa sphère de la NBA. J'ai été meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur contreur la même saison en NBA.
Robinson ?
Robinson, c'est la bonne réponse. Et c'est le seul avec Abdul-Jabbar à avoir fait cette performance. Bravo.
Je crois qu'il termine meilleur marqueur de la NBA sur un dernier match. Il met 71,
ouais,
je crois.
Ouais.
Arnaud, j'ai une saison à 100% à 3 points.
Ça, c'est une bonne question pourrie. Un mec qui a dû faire 1 sur 1 ou 2 sur 2.
J'ai envie de dire Tim Duncan.
C'est vrai, c'est bon, en 2001. Je pense qu'il a pas dû en prendre.
Je vais vous sortir ça.
Et enfin, Steve, j'ai une moyenne à 3,3 contre par match en play-off.
Bon, en play-off, j'ai une moyenne à 3,3 contre par match. C'est beaucoup de 3,3 contre, mais en play-off, parfois, il n'y a pas beaucoup de matchs. Donc, si tu t'en fais machin, je vais dire les deux.
Aucun des deux.
Aucun des deux.
C'est Hakeem Olajuwon qui a fait ça et c'est le seul de l'histoire. Donc le score est de 4 points pour Arnaud, 2 points pour Fred et 2 points pour Steve. On revient à des questions simples, faciles sur l'histoire des Spurs, mais elles ne sont pas si faciles que ça. Greg Popovich, lorsqu'il était assistant coach aux Warriors, était l'assistant de qui ?
Don Nelson.
Del Harris.
Don Nelson, attention, il est bien. Il est très bien dans ce quiz, Arnaud. Hein. Il a
je peux craquer, j'ai pas de mental.
Oui, tout à fait. Il reste plus beaucoup de questions.
Quel... Il a fait l'impasse sur le talk 3, c'est pour ça qu'il est bien
préparé. Putain, c'est préparé son rookie de l'année. Il préparait l'histoire des Spurs.
Ah, quel ancien joueur des Spurs a partagé le maillot des Chicago Bulls avec Michael Jordan lors de la saison 85-86 ?
Steve Kerr.
George Gervin. Attention, 6 points Arnaud.
Mais je vous dis, le mec a fait que ça en fait.
Là, il s'est allé deux fois, donc ça aide. Hein.
George Garvin, vous saviez qu'il avait joué aux Bulls une saison ?
Iceman, c'est son nom, je crois.
Probablement.
Légende.
Maillot retiré.
Je vous donne les clubs dans l'ordre d'un joueur. Vous devinez de quel joueur il s'agit. Ça peut aller très vite, comme ça peut être interminable. C'est l'indice Julien Lepers chez vous.
Ouais.
Olympia Ljubljana.
Dans l'ordre, Rachon Nesterovic.
Maccabi Tel Aviv. Aftodor Saratov.
Roberto.
Olympia Milan. San Antonio Spurs. Sacramento Kings. Milwaukee Bucks. Orlando Magic. New York Knicks. Memphis Grizzlies. Miami Heat. Detroit Pistons. Zalgiris Kaunas.
Oh, tu m'as perdu.
Sabonis.
Goran Dragic.
Non. Non.
C'est un Européen ou c'est
Zoran Dragic. Tu te rapproches, Steve.
Beno Udri.
Beno Udri, oui, bien joué.
Wow.
Beno Udri.
Oh, celui-là,
là, il vient de loin.
Beno Udri.
Ouais. Bah, le backup de Tipeee.
Oui.
Voilà, et c'était Olympia Ljubljana qui pouvait vous faire trouver tout de suite. Oh, une question Boris Dio. Bah, pourquoi? Parce que Boris Dio a joué aux Spurs. Je vous donne un de ses coéquipiers. Aux Spurs, hein. Vous me dites si oui ou non il a joué avec lui aux Spurs.
Chacun son tour.
Vous avez compris?
Ouais, ouais.
Fred!
Il pleure.
Boris Dio a-t-il joué aux Spurs?
Avec Tony Parker.
Avec Stephen Jackson.
Avec oui.
Moi, oui, 2011-2013. Arnaud, Boris Dio a-t-il joué aux Spurs avec Bruce Bowen?
Non.
Non, il a arrêté en 2009. Steve, Boris Dio a-t-il joué aux Spurs avec Nando De Colo?
Avec Nando De Colo?
Oui, avec Nando De Colo. Mmh. Il y a un énorme suspense.
C'est roulement de tambour.
Oui, il a joué.
2014, ouais. Il part.
12,
il
sait quoi, 2013. Il
part à... Ah, 2013, j'aurais dû.
Fred, Boris Dio a-t-il joué aux Spurs avec Luis Scola?
Non.
Ben non, parce qu'il n'a jamais joué aux Spurs, oui. De Luis Scola.
Avec Michael Jordan.
Arnaud, Boris Dio a-t-il joué aux Spurs avec Antonio McDyess?
C'est vieux. Non.
Non, il est parti avant. Il est bon, Arnaud, là. Attention, Richard Jefferson pour Stephen et on aura fini.
Richard Jefferson
pour Stephen.
Bon, je veux dire oui.
Oui, tout à fait, en 2012. Alors là, on fait le compte des points. Arnaud, c'est un carton, il a 8 points. Stephen est à 5 et Fred à 4. Mais il reste une dernière question affreuse. Une dernière question affreuse. Ce que je vous ai fait, c'est vraiment pas sympa. Nous allons parler du lockout. Oh, 2011.
2011.
Tony Parker joue quelques matchs à l'ASVEL.
Un salaud, par tu vas pas nous demander l'équipe de
vous allez me donner les coéquipiers de Tony Parker à l'ASVEL en 2011 et c'est un point pour chaque bonne réponse, donc tout est possible. Fred, je vais vous dire, il y en a les deux tiers, je les connais pas. Hein.
Ronny Turiaf.
Excellent et bravo à toi. Parce que c'était pas le plus évident. Arnaud.
Edwin Jackson.
Edwin Jackson, c'est bon.
Bah, j'ai fini. Allez, merci.
Allez, Stephen.
Stephen, il peut tous les trouver. Attention, il est bizarre, ce mec. Hein.
C'est dur. Hein.
Réfléchis bien. Alors, je
veux pas lui donner un petit indice.
Émeric Jeannot.
Émeric Jeannot.
Ah, c'était avant. Ah,
ouais. Putain, j'hésitais avec Lolo Forest.
Fred.
Lolo Forest.
Laurent Forest.
Merci, Stephen.
Laurent Forest. Laurent Forest.
Non.
L'année d'après, Laurent Forest.
Ah
Laurent Forest, je vérifie. Non, c'est l'année d'après, Laurent Forest. Donc, bah, Arnaud, t'as gagné. Est-ce que tu veux les humilier? T'as d'autres noms?
Je lance un peu une pièce en l'air.
Il y avait Shimon Trautman,
non? Non.
Ah. Antonito?
Il n'y a pas Ali Traoré?
Non.
Léo Westerman?
Léo Westerman, bah, ouais. Il y avait Léo Westerman. Il y en a, ses pieds dépassent quand il se couche.
Tilly.
Kim Tilly.
Ouais,
Kim
ouais.
Tilly.
Les jeunes, Kim après, Tilly, les déjà. Américains. Ouais. Il n'y a pas du Spencer, non, pas Spencer.
Donne des initiales un peu.
Il y avait...
Les initiales, vas-y, les initiales, s'il te plaît.
Il y avait un joueur français qui, je pense, a été drafté ensuite en NBA.
Les initiales.
Je me demande même...
Les initiales, c'est quoi?
Les initiales LJC.
Livio Jean-Charles.
Livio, il n'a pas été drafté,
si,
non?
Si. Par les Spurs, non?
Ensuite,
ouais. Ouais, je
Paul Lacombe.
Ah oui,
ouais.
Ensuite,
ouais,
Lacombe, les autres, ouais. Je ne connais pas.
Alors, L'Éricain.
Là, Dimitrios Charitopoulos.
Ouais, c'est un grec.
Tu ne connais pas Charitopoulos?
Non.
Moi, plus.
Pas très chrétien. Hein.
Il y a Hilton Armstrong.
Oui, pivot, qui a joué NBA, d'ailleurs.
Dijon Thompson.
Dijon
oui,
Thompson.
Oui, qui n'a pas joué à JDA. Hein.
Phil Goss.
Phil Goss, il a 3 enfants.
Jimmy Skin.
Ouais, il a la peau sur les os.
Il a la peau sur les os.
Théo Léon.
Théo Léon,
oui,
reviens.
Théo Léon.
J'ai même à la maison, Théo.
Lambert Diacono.
Oui, oh. Il joue avec un ballon Wilson,
Bangali
Lambert.
Bangali Fofana.
Bangali, Bangali.
Ah oui, Bangali Fofana.
Bangali,
oui.
Bangali.
Et un mec très habile en négociation, Rudy Dill.
Oui,
oui.
Bravo. C'était très dur, bravo Arnaud. Tu as gagné ce quiz brillamment.
À la semaine prochaine. RMC Basket Time.